France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Yourcenar, romancé, est-ce trompé ? Épisode 1, la transe de Marguerite. Ah, ces conversations. Vous savez, le genre de conversations qui se produisent assez tard dans la nuit. Quand on discute avec son ou sa meilleure amie, forcément, ça dérive sur les sujets intimes, les sujets importants. Alors on se resserre un verre et on se confie un peu. Il y a cette question qui nous tracasse, parce qu'on sait confusément qu'on a fait quelque chose de mal. Enfin, pas vraiment de mal, mais que la morale réprouve. On le sait bien qu'on a passé une limite et on aimerait que cet ami nous dise « Mais non, c'est pas grave, en fait, c'est rien du tout, ça arrive à tout le monde l'a fait au moins une fois. » Et c'est pour obtenir justement cette réponse que l'on se décide à poser frontalement la question, un peu comme dans un confessionnal pour obtenir l'absolution. Est-ce que tu trouves, toi, que romancer, c'est tromper ? Alors évidemment, c'est une conversation qui arrive surtout entre les personnes dont le métier est de romancer, même si dans la vie de tous les jours, chacun a tendance à romancer aussi, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Alors que signifie romancer pour les personnes dont le métier est de transmettre des connaissances ? En quoi cela peut-il poser un problème éthique ? Eh bien, disons que romancer, c'est agencer des faits d'une certaine façon afin qu'ils se transforment en histoire. C'est le contraire de présenter des faits le plus à plat possible, comme dans une expérience scientifique. Or, la narration a ceci de particulier, qu'elle est plus séduisante que les faits. Elle est plus satisfaisante pour l'esprit humain, car elle donne de la cohérence au chaos qui nous entoure, et c'est une chose que nous trouvons particulièrement rassurante. L'histoire, elle coule de source, elle semble toujours logique et elle est bien souvent édifiante, c'est-à-dire qu'elle paraît nous donner des clés dans la vie. L'histoire comporte un début, un développement, un point d'orgue et une fin. Celui qui l'écoute a donc l'impression que le problème posé au début est résolu à la fin et peut donc aller se coucher tranquille. La narration a aussi cela de gratifiant qu'elle donne à voir et à imaginer. Elle fait vivre des personnages, elle les met dans un décor, elle fabrique des images chatoyantes. Cela aussi plaît à l'esprit humain, car il se retrouve transporté ailleurs. Il visite d'autres lieux dans l'espace et le temps, ce qui le dote de pouvoirs immenses, à commencer par le pouvoir du rêve. Alors quel est le problème ? Eh bien l'ennui avec la mise en récit, c'est quand on raconte une histoire qui se présente comme vraie ou comme juste. Typiquement, quand on parle de personnes qui ont réellement existé ou de faits qui se sont effectivement produits. Or, dans ces cas-là, bien souvent la mise en récit peut conduire à évacuer un peu la complexité des choses. Je ne parle même pas ici de mensonge, mais simplement de simplification du réel. Présenter le réel pour le faire entrer dans cette forme plus satisfaisante pour l'esprit humain et qui semble couler de source, la forme de la narration. Et cela pose donc des problèmes. Par exemple, il est plus satisfaisant de raconter l'histoire de France par ses grandes personnalités plutôt que par la multitude des personnes qui ont pesé sur cette histoire. On peut dire aussi qu'il est moins satisfaisant d'expliquer l'enchevêtrement des motivations qui ont conduit certaines personnes à devenir résistantes plutôt que d'en faire des personnages uniquement motivés par leur courage et leur personnalité hors du commun. De plus, romancer l'histoire revient souvent à écrire le roman national, c'est-à-dire une fiction romantique de qui nous sommes en tant que peuple. Dans les romans nationaux du monde entier, tous les peuples sont géniaux et opprimés, courageux et incompris. Un roman national, c'est comme un feel-good movie à l'usage des nations. Le problème, c'est qu'il conduit souvent à vouloir taper sur les autres, et c'est là que les ennuis commencent. Ça, c'est pour le roman national. Mais qu'en est-il du roman historique ? Je veux parler des livres comme « Le nom de la rose »,« Ivanhoé » ou « Notre-Dame de Paris ». Cela pose-t-il problème de la même façon ? Est-il possible ou non de transformer l'histoire en roman sans la trahir ? Ou alors au contraire, n'est-ce pas simplement une manière de rendre passionnante la matière historique ? C'est ce que nous allons essayer de voir au cours de cette mini-série en 2 épisodes, guidée par les archives d'une écrivaine qui s'est interrogée sur ces questions, Marguerite Yourcenar.
Yourcenar, romancé estrompé. Une mini-série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Anne-Vanessa Prévost.
Marguerite Yourcenar est notamment célèbre pour ses deux romans historiques qui ont été des best-sellers. Le premier s'intitule « Mémoire d'Adrien » et il est consacré à l'empereur romain Adrien. Et le second, c'est l'œuvre noire dont l'intrigue se passe à la Renaissance, époque des guerres de religion et des luttes entre la foi et la science. Mais au-delà de ces deux livres, Yourcenar considérait que tous ses romans étaient, d'une manière ou d'une autre, des romans historiques.
On peut dire, ce qui est peut-être paradoxal, mais vrai, que tout roman est historique. Pour la simple raison que tout roman se passe dans le passé. Et qu'un événement situé, mettons, à un an d'ici ou à 6 mois d'ici dans le passé, est aussi irrémédiablement perdu, aussi difficile à récupérer que s'il se passait il y a des siècles. Je donnerai pour exemple le fait, par exemple, que je me trouvais à Paris en 1968 et que si l'envie me prenait d'écrire un roman sur la révolte étudiante à Paris, je ferais exactement ce que je fais quand j'essaie d'évoquer un événement se plaçant dans la Rome du IIe siècle ou à l'époque de la Renaissance. Enfin, je ferai l'impossible pour m'informer de mon mieux.
Josiane Savigno, vous avez dirigé Le Monde des Livres de 1991 à 2005. Vous êtes également biographe de Marguerite Yourcenar. Est-ce que vous diriez que tous les romans de Marguerite Yourcenar peuvent s'apparenter à des romans historiques ?
Mais vous savez, comme elle était paradoxale et ambiguë parfois, donc elle peut dire ce qu'elle a dit là. Dans la conversation, elle pouvait dire « Je n'écris pas de roman historique », comme si le roman historique était... Mais je comprends ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que le roman historique, tel qu'on l'entend souvent, c'est quelque chose d'une certaine extériorité, et qu'elle, c'était une intériorité.
Alors, ça signifie finalement que elle-même avait une façon de voir son propre travail, où les faits étaient un petit peu romancés. C'est ça que j'entends de ce
Bien
que vous
sûr.
Dites.
Alors, je pense que par rapport à romancer, c'est tromper. Elle aurait dit romancer, c'est dire sa vérité. Sans doute, mais vous avez raison. Par exemple, si on prenons Mémoire d'Adrien, il est vrai que ça lui a été beaucoup reproché. Elle occulte un certain nombre de choses à propos d'Adrien, notamment sa répression en Palestine et le fait qu'il n'a pas été convenable avec les Juifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle passe là-dessus quand même. Ça lui a été reproché par certains. Mais quand elle parle d'une certaine à la fois historicité et intimité, je me souviens que quand elle disait, vous savez, parfois la nuit j'écrivais du grec pour me rapprocher d'Adrien, je n'y croyais pas, je pensais que c'était une pause. Et quand je suis allée enquêter et que je suis allée ranger sa maison, j'ai découvert des pages et des pages et des pages noircies en grec. Donc il y avait quand même un désir d'intimité, pas un désir de plongée historique, plutôt un désir de réappropriation.
Marguerite Yourcenar est née à Bruxelles en 1903. Sa mère est une Belge de bonne famille, comme on dit, qui a épousé un aristocrate français de 20 ans son aîné. Elle meurt quelques jours seulement après la naissance de sa fille. Marguerite grandit en France avec son père, un homme séducteur et flambeur, assez peu conventionnel et qui la laisse plutôt libre de faire ce qu'elle souhaite. C'est une enfant qui lit tant et plus et qui commence à écrire jeune. Avec son père, elle trouve le pseudonyme qui va devenir le sien, puisque de son nom de baptême, Crayoncourt, ils font un anagramme, Yourcenar. Elle n'a pas encore 30 ans quand son père meurt à son tour en 1929. S'ouvre alors le moment de sa vie le plus dissipé. Des sorties, de l'alcool, quelques hommes, davantage de femmes. Elle voyage aussi beaucoup et passe de nombreux mois à l'étranger. C'est à ce moment-là qu'elle publie également quelques livres remarqués par la critique, mais qui ne touchent pas le grand public. En 1937, elle rencontre Grace Frick, une Américaine avec qui elle fait sa vie. Toutes deux partent s'installer sur l'île des Monts Déserts, aux États-Unis, dans le Connecticut. En 1949, voilà qu'elle reçoit une malle, abandonnée au début de la guerre dans un hôtel de Lausanne. Celle-ci contient des documents, parmi lesquels un début de lettre qui commence par « À mon cher Marc ». Comme elle ne connaît pas de Marc, elle met du temps à se souvenir de qui il s'agit. Et il s'agit d'un début de manuscrit, un roman épistolaire consacré à Marc Aurèle, futur empereur Adrien. L'arrivée par la poste de ces reliques de son passé lui donne envie de se remettre à écrire ce qui va devenir Mémoire d'Adrien. Ce sera le roman de son premier succès. Et quel succès ! En 1951, les ventes de ce livre dépassent toutes les attentes. Il en sera de même 17 ans plus tard quand elle publiera un deuxième best-seller, L'œuvre noire. Ces deux livres font aujourd'hui un peu d'ombre au reste de son œuvre qui est considérable. Citons par exemple sa trilogie autobiographique composée d'Archives du Nord, de Souvenirs pieux et de Quoi l'éternité, livre paru l'année de sa mort en 1988. Entre-temps, en 1981, elle avait été élue à l'Académie française, mais ne s'était rendue qu'une seule fois dans ce club où, disait-elle, de vieux galopins se réunissent tous les jeudis et où une femme n'a pas grand-chose à faire.
C'est très intéressant ce que vous avez dit sur l'histoire de la malle qui arrive. Donc, en fait, elle reçoit cette malle qu'elle avait abandonnée à Lausanne à cause de la guerre en partant. Et elle trouve des papiers qui ne l'intéressent pas beaucoup. Et elle est très contente parce que Grace Frick n'est pas là et que Grace Frick est quelqu'un qui aime conserver. Donc elle pense que Grace Frick serait très très fâchée qu'elle mette tout au feu comme ça. Donc elle jette des papiers. Et puis, comme vous l'avez dit, tout d'un coup, elle voit une lettre qui commence par « Mon cher Marc, virgule ». Et elle se dit « Mais... je ne connais pas de Marc. Qui est ce Marc ? » Et puis, comme elle avait déjà écrit plusieurs versions de Mémoire d'Adrien, notamment une version dialoguée qu'elle avait jetée parce qu'elle la trouvait très mauvaise, elle réfléchit et puis elle va un peu plus loin dans le texte. Et là, elle comprend que c'était le début d'une nouvelle version de Mémoire d'Adrien. Et à partir de là, elle est prise d'une espèce, comment dire, de, je ne dirais pas de folie, mais de frénésie d'écrire ce livre.
Pour vous, qui êtes sa biographe, qu'est-ce qui vous attache le plus à elle ? Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important à raconter sur cette trajectoire ?
Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette femme, c'est son nomadisme, cette espèce de fidélité à la mémoire de son père et aux propos de son père qui disait « on s'en fout, on n'est pas d'ici, on s'en va demain ». Ça me plaît beaucoup comme attitude dans
la vie.
Ça
veut dire quoi, ça ?
Quand il avait des ennuis, etc., ou quand on voulait l'assigner à quelque chose, il disait « non, on s'en fout, on n'est pas d'ici, on s'en va demain ».
Elle a beaucoup hérité, finalement, de la personnalité de son père ?
Elle a pas mal hérité. Pendant les années 30, c'était, on pourrait dire aujourd'hui, une Amazone, quoi. Elle draguait beaucoup des femmes. Elle a eu des femmes très belles dans sa vie, comme Lucie Kyriakos. Et puis, après, c'est Grace Frick. Moi, j'ai envie de lui rendre hommage, en fait. Je sais qu'il y a une biographie que je n'ai pas encore lue de Grace Frick en anglais qui n'a pas été traduite en français. Je doute qu'elle soit traduite, en fait. Donc cette femme, quand j'ai enquêté, je me suis aperçue, il y avait encore de ses condisciples qui étaient vivantes, parce que c'était il y a longtemps. Et ces femmes m'ont expliqué qu'elles avaient toujours pensé que Grace Frick allait devenir un très grand professeur d'université, qu'elle était extrêmement compétente et très très forte, et que tout d'un coup elle a rencontré Marguerite Yourcenar et elle s'est dit « voilà, cette femme est une créatrice et je dois lui dédier ma vie ». Et c'est en quelque sorte ce qu'elle a fait. Et donc « Mémoire d'Adrien », Marguerite Yourcenar l'a écrit dans une espèce de pulsion. C'est-à-dire qu'elle raconte qu'elle écrivait partout. Mais je pense qu'ensuite, c'est Grace Frick qui est allée à la bibliothèque et qui a fait un certain nombre de relevés, de documentation et de choses pour qu'il n'y ait pas trop d'erreurs dans ce livre.
En cette année 887 de l'ère romaine, ma tâche consistait à étouffer la révolte en Judée, à ramener d'Orient, sans trop de pertes, une armée malade. En traversant l'esplanade, je glissais parfois dans le sang d'un rebelle exécuté la veille. Je me couchais tout habillé sur mon lit. 2 heures plus tard, j'étais réveillé par les trompettes de l'aube.
Revenons-en au roman historique et à la manière dont Yourcenar y travaillait. Pour elle, il ne suffisait pas de tout savoir sur une période donnée. Il fallait que le roman apporte davantage qu'un manuel d'histoire, le plus complet soit-il. En l'occurrence, il devait aussi être une méditation sur le monde, une réflexion sur l'être humain. Pour arriver à transformer l'histoire en littérature, Marguerite Yourcenar devait s'imprégner de l'époque dont elle parlait, se fondre dans ses personnages historiques. Archives du 11 juin 1979.
Les gens s'imaginent, peut-être surtout aux États-Unis, mais même en France, ils vous disent d'un air solennel, oh, vous avez dû faire beaucoup de recherches.
Oui.
Alors il vous voit, allant avec une petite serviette sous le bras, dans différentes bibliothèques, griffonnant des notes, rentrant chez vous et absolument sûr que vous avez trouvé ça. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. On lit avec un certain choix, naturellement. Il y a certains sujets auxquels on s'attache plutôt qu'à d'autres, du moins certaines parties de la vie. Et alors, évidemment, quand on s'est fait un état d'esprit où l'on est assez renseigné sur le monde antique, ou assez renseigné sur la Renaissance, ou assez renseigné sur n'importe quoi, on commence à se dire qu'on pourrait peut-être écrire quelque chose. Et dans les derniers temps, il y a évidemment des vérifications. Le genre recherche, comme les gens s'imaginent. Mais c'est peu de choses comparées à cette espèce de pénétration et d'imprégnation toute la vie.
C'est tout à fait elle, cette idée de l'imprégnation. C'est au fond ce qu'on disait un peu au départ. C'est ne pas voir le roman historique comme quelque chose on est en plongée sur le roman historique, mais on intègre. Et il est vrai que j'ai vu sa bibliothèque et que sa bibliothèque contenait un nombre considérable, en effet, de livres sur l'Antiquité, comme elle vient de le dire, et aussi sur le XVIe siècle.
Est-ce que vous me diriez, puisque vous avez lu un nombre incalculable de romans dans votre vie, y compris des romans historiques, est-ce que vous diriez qu'elle avait une façon très spécifique de travailler, ou que c'est au fond la façon dont les bons écrivains qui font des romans historiques travaillent?
Mais écoutez, je ne saurais pas trop répondre à cette question, parce que je ne suis pas une très grande lectrice de romans historiques au sens traditionnel.
Parce que vous ne les aimez pas?
Parce que souvent, ça ne me touche pas, parce que c'est très bien fait. Souvent, je trouve que c'est très bien fait. Mais il y a quelque chose qui me manque. Et sans doute, ce quelque chose, je le trouve chez Marguerite Yourcenar. C'est-à-dire tout ce que vous venez de dire, à savoir se réapproprier une familiarité, une intériorité, même une complicité parfois avec la personne qui est en question dans le roman.
Donc rapprocher ce qui est loin,
oui,
dans le temps et le rendre presque contemporain d'une certaine manière.
En fait, c'est ça. Et quand on lui reprochait, vous savez, de n'être jamais arrivé au XXe siècle, ce qui n'était pas tout à fait vrai, puisque Denier du Rêve se passe au XXe siècle pendant la période de Mussolini, et elle disait que ça n'était pas ça la question. Ce n'est pas la question, vous l'avez un peu montré dans une archive, là, que ce n'est pas la question du siècle, c'est la question de comment on s'inclut dans ce sujet.
L'idée de Mémoire d'Adrien est née très tôt dans l'esprit de Yourcenar. En 1924, elle vient d'avoir 20 ans quand elle visite les ruines de la Villa Adriana à Rome. Il s'agit d'une immense résidence commandée par l'empereur Adrien, dont il avait d'ailleurs en partie dessiné les plans. À ce moment-là, c'est l'homme davantage que l'empereur qui intéresse la jeune Marguerite. Elle se trouve des points communs avec cet esthète amoureux des arts et s'intéresse aussi à sa relation avec son amant Antinous. Bien des années plus tard, quand elle reprend l'écriture de ce roman, son intérêt se porte alors aussi sur l'homme d'État. Elle a élargi le domaine de sa curiosité.
Quand j'ai commencé, à 20 ans, à écrire les Mémoires d'Adrien, dans les versions supprimées depuis de ce livre, évidemment, ce qui m'intéressait le plus dans Adrien, que je connaissais en somme assez mal, vers lequel je m'étais tournée parce que j'avais visité, comme tout le monde, un dimanche la Villa Adriana, je pensais surtout au grand helléniste, au grand amateur d'art, à l'empereur qui s'était créé une sorte de retraite admirable dans laquelle il avait rassemblé, on pourrait dire, tous les songes de sa vie, à l'amant, au poète, enfin à tout ce qui nous intéresse et nous touche dans le personnage humaniste d'Adrien. Plus tard, en 1945, quand j'ai pensé à reprendre les Mémoires d'Adrien, c'était immédiatement après la dernière guerre, et ce qui m'intéressait, je dois dire, le plus à ce moment-là, c'était l'image de l'homme qui avait stabilisé la terre, comme il le disait, le restaurateur de la paix romaine, le grand administrateur, le grand économiste qui avait rendu la prospérité à l'Empire, le premier homme qui a eu l'idée, dans l'Empire romain, d'une sorte d'empire fédéré, dans lequel chaque région du monde aurait sa part, comme dans un admirable concert. Ce que je voyais aussi, c'était un homme qui préférait la pluie de l'Angleterre aux moustiques de Rome, qui se disputait avec son secrétaire et le frappait au point de le blesser grièvement, qui avait parfois d'aigres querelles avec les philosophes de son entourage, qui n'aimait pas sa femme, mais qui avait de la tendresse pour sa belle-mère, qui se livrait à cette tentative insensée et touchante qui consiste à vouloir rendre à jamais présente la mémoire d'un mort, faisant faire des statues, des médailles, des monnaies en une telle profusion que nous n'avons pas d'autre exemple d'une telle recherche désespérée d'immortalité pour un mort dans l'histoire.
Suzanne Savigno, qu'est-ce que vous retenez de cette archive de 1971?
Alors déjà, pour l'anecdote, il y a une chose qui me fait rire, c'est qu'elle dit les mémoires d'Adrien, et que chaque fois que j'ai osé mettre cet article en sa présence, elle m'a répondu avec son ton inimitable, il n'y a pas d'article.
Comment vous expliquez ça?
Bon, le paradoxe de chacun. Non, ce que je trouve très intéressant, mais ce que vous avez souligné avant déjà, c'est cette histoire de ces projets de la 20e année. Parce que je crois que là, on comprend son fonctionnement quand on voit, pas seulement pour Adrien, mais aussi pour l'œuvre noire, qui était une petite nouvelle au départ. Et donc, à 20 ans, elle a commencé à voir quelque chose. Alors, pour Adrien, c'était ce qu'elle a dit là, c'est-à-dire elle avait une vision un peu parcellaire, à son avis, d'Adrien, puis au fil du temps, elle a élargi.
Elle est passée aussi de l'émotion à l'intellectualisation de la vie, oui, d'Adrien.
Et je pense que c'était la même chose pour Zénon. C'était au départ une espèce de personnage qu'elle avait envie de construire, de remettre dans son siècle. Il avait un contour un peu flou. Et puis, peu à peu, il est devenu ce personnage fort, médecin, qui cherche la liberté, qui cherche une manière de vivre autrement. Et je pense que là aussi, elle a élargi et elle a intellectualisé, comme vous disiez.
Un peu comme si, finalement, un très grand roman historique, c'est un roman dont on peut avoir l'idée et l'intuition jeune, mais dont il faut de la maturité pour arriver à accumuler justement cette familiarité avec son sujet pour qu'il devienne naturel. En fait, le roman historique, on a l'impression qu'il peut pas comme ça jaillir très rapidement au début de la vie d'un écrivain. Ça peut pas être un premier roman.
Alors, je sais pas pour d'autres, mais pour elle, ça me paraît quand même assez évident. Et d'ailleurs, comme elle le dit et comme en témoignent ses différentes versions, elle a bien vu que ça n'était pas abouti pendant très longtemps. Moi, je me suis toujours interrogée sur pourquoi c'est un roman entre guillemets historique, qui avait été plus remarqué que les romans historiques en général, qui sont célébrés sur le moment, mais qui sont pas souvent considérés comme une pièce maîtresse d'une œuvre.
Et pourquoi, selon vous, alors?
Mais je ne sais pas. Peut-être à cause de ce qu'elle dit, à cause de la réappropriation et de la familiarité, de ce que vous disiez, c'est-à-dire cette manière d'intérioriser les choses plutôt que de faire un récit dont on pense qu'il est nourri de l'histoire, mais de l'extérieur.
Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi, si ce roman plaît, Les Mémoires d'Adrien, parce qu'il allie l'amour, les émotions de jeunesse, justement, de Marguerite Yourcenar, avec la politique, qui sont un petit peu, justement, l'inverse, la rationalité, au fond, la dureté de la politique et de la guerre. Est-ce que c'est pas ça, justement, cette sédimentation de deux sentiments qui sont un peu opposés?
Ben ça, je crois que vous avez raison, parce que il y a des personnes, des lecteurs qui insistent beaucoup sur une partie d'Adrien dont nous n'avons pas beaucoup parlé, c'est son histoire d'amour. Qui pensent que c'est aussi un roman d'amour.
Ben c'est un roman d'amour, non?
Oui, je crois. Un roman historique d'amour, c'est... Non, je pense que c'est... Peut-être, en effet, prioritairement un roman d'amour. Est-ce que c'est ça qui a tellement séduit et, au fil du temps? Je pense que sur le moment, quand il est sorti, il a plus été perçu, comme vous le disiez, comme un roman historique.
Antinous était grec. Je retrouvais en lui les superstitions d'un disciple d'Ampollonius, la foi monarchique d'un sujet oriental du grand roi. Sa présence était extraordinairement silencieuse. Il m'a suivi comme un animal ou comme un génie familier. Il avait d'un jeune chien les capacités infinies d'enjouement et d'indolence, la sauvagerie, la confiance. Ce beau lévrier, avide de caresses et d'ordre, se coucha sur ma vie. J'admirais cette indifférence presque hautaine pour tout ce qui n'était pas son délice ou son culte. Elle lui tenait lieu de désintéressement, de scrupules, de toutes les vertus étudiées et austères. Je m'émerveillais de cette dure douceur, de ce dévouement sombre qui engageait tout l'être.
Les Mémoires d'Adrien, en un sens, sont à peine un roman. Il n'y a pas de dialogue. Et je crois franchement que je serais incapable d'écrire un dialogue entre deux personnages de l'Antiquité. parce que, enfin, nous ne savons pas, nous n'avons pas assez de documents, les bandes sonores n'existaient pas, nous ne savons pas comment ces gens-là causaient entre eux, comment ont discuté la situation politique ou comment se passait une scène d'amour entre deux personnages dans l'Antiquité. Nous avons du lyrisme, où nous avons des chroniques, où nous avons des lettres. Et c'est pour ça, justement, que les mémoires d'Adrien, en somme, sont une lettre. Parce que nous voyons très bien comment ces gens-là écrivaient noblement et dignement leurs méditations en s'adressant à leurs amis. Mais nous ne les voyons pas du tout échangeant quelques propos autour de la table.
Josiane Savigno, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Marguerite Yourcenar?
L'idée que pour faire roman, il faut faire des dialogues, ça me fait rire, ça me fait vraiment rire. Mais quand elle dit c'est à peine un roman parce qu'il n'y a pas de dialogue, ça m'amuse beaucoup. Comme j'avais jamais entendu cette archive que je trouve absolument magistrale.
Alors, ce qui est quand même intéressant et qui nous ramène au roman historique, c'est l'idée que les seuls documents disponibles, c'était les lettres pour comprendre ce que pouvaient être les relations entre les personnes de l'Antiquité. Et donc, son roman est fait de façon épistolaire. Et c'est là, poussé très loin, la correspondance entre, finalement, la vérité historique et la forme du roman.
Oui, c'est ce qu'elle dit là, c'est ça, c'est j'ai voulu faire une forme d'époque, parce qu'à l'époque, on n'a pas de témoignage d'époque, de dialogue, etc. Donc j'ai voulu faire une forme d'époque. Et de fait, dans l'œuvre noire, il y a des dialogues. Donc c'est sans doute plus un roman, d'après elle, si on en croit ce qu'elle vient de dire.
Ayoub, le derviche d'Arazi avec qui il avait fait amitié, lui avait communiqué ses méthodes acquises en Perse dans un couvent hérétique, car Mahomet a ses dissidents comme le Christ. Il reprenait dans sa soupente de Bruges des recherches commencées jadis au fond d'une cour où bruissait une source. Elle le menait plus loin que ne l'avait fait aucune de ses expérimentations dites « inanima vili ». Couché sur le dos, rétractant les muscles du ventre, dilatant la cage du thorax où va et vient cette bête vite effrayée que nous appelons un cœur, il gonflait soigneusement ses poumons, se réduisait sciemment à n'être qu'un sac d'air faisant équilibre aux forces du ciel. D'Arazi lui avait ainsi conseillé de respirer jusqu'aux racines de l'être.
Le 8 mai 1968, alors que les étudiants manifestent et que les ouvriers débrayent, paraît en librairie le nouveau livre de Marguerite Yourcenar, L'œuvre noire. Cette fois, ça n'est plus l'Antiquité, mais la Renaissance que l'écrivaine entend explorer par le biais de son personnage de Zénon. Zénon est un médecin, alchimiste et astronome qui prône la liberté de pensée et d'expression dans un univers où règnent l'obscurantisme et l'inquisition. Mais comment a-t-elle imaginé le personnage de Zénon ? Archive 1969.
C'est une création personnelle. J'ai commencé le livre qui allait devenir l'œuvre noire de très bonne heure en regardant de vieux papiers de famille, parce que j'appartiens moi-même à la Flandre française qui a beaucoup d'attaches avec le pays de Zénon. J'ai trouvé ce prénom de Zénon parmi de lointains ascendants. Et j'ai rêvé de ce personnage et je l'ai créé peu à peu. Et bien entendu, pour être sûr que je ne le présentais pas comme un homme ne pouvait pas être au XVIe siècle, j'ai lu les textes de l'époque et j'ai tâché de voir s'il y avait des équivalents, tels que chez Léonard, chez Ambroise Paré, etc., pour le constituer d'éléments qui étaient vraiment ceux de son époque. Mais son tempérament, et en somme sa vie, est bien à lui. C'est en somme une création de mon imagination, mais soutenue par des documents du temps.
Zénon est vraiment, elle le dit, et je crois qu'elle a raison, est vraiment une création, est vraiment un personnage qu'elle a rêvé, comme elle le dit. Moi, c'est un personnage que je trouve assez extraordinaire. C'est vraiment mon livre préféré de Marguerite Yourcenar, mais je crois que c'était le sien aussi.
Et vous pensez que cette mise à distance temporelle rajoute quelque chose au roman ? Elle aurait pu raconter l'histoire d'un personnage au XXe siècle qui aurait dit la même quête de liberté.
Mais il n'aurait pas du tout été dans les mêmes circonstances historiques. Peut-être elle n'aurait pas eu cette même familiarité avec lui parce qu'elle n'aurait pas eu assez de documents sous la main pour, comme elle le dit, se pénétrait dans l'époque.
Est-ce que le fait de s'intéresser à un personnage lointain dans le temps, ça n'est pas touché à ce qui fait l'être humain, justement au-delà du temps, alors que quand on s'intéresse à un personnage contemporain, évidemment, nous-mêmes, comme on vit dans cette même réalité, on a tendance à regarder des détails qui ne sont peut-être pas le plus important de l'expérience humaine. Alors que quand on met à distance, on voit mieux finalement l'âme du personnage lui-même.
Mais alors ce qui est bien, c'est que vous venez de dire une phrase de Marguerite Yourcenar, absolument.
Ah ben j'ai pas fait exprès, êtes... laquelle
mais tout, c'est-à-dire que vous êtes imprégné d'elle au point de dire quelque chose qu'elle aurait absolument dit.
À l'issue de ce premier épisode, on pourrait dire que dans le cas de Marguerite Yourcenar, romancer, ça n'est pas tromper le lecteur. Mais peut-on dire cela de tous les romans historiques, y compris de ceux qui prennent sciemment des libertés avec les faits ? Je ne parle pas de ceux qui comblent les blancs avec ce qu'il y a de plus probable, mais de ceux qui inventent des scènes de toutes pièces, ou alors qui racontent l'histoire d'une manière qui les arrange, sans se soucier de respecter l'histoire en tant que science. Et en même temps, est-ce que ça n'est pas tout simplement là que réside la liberté de l'écrivain? C'est ce que nous allons nous demander dans l'épisode qui suit, et vous verrez que Marguerite Yourcenar a encore des enseignements à nous livrer.